Restez informés tout au long de la journée. Écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Abdoul Fattah Tiamtoré.
Oméga bonjour, à la une de l'actualité, que se sont donc dit le capitaine Ibrahim Traoré, le général Djibril Bassolé au téléphone, l'ancien ministre des Affaires étrangères a échangé avec le président du MPSR le 2 octobre dernier selon Africa Intelligence, on en parle dans ce journal. Assises nationales des 14 et 15 octobre prochains, l'équipe d'organisation est connue et les invitations sont lancées. Les participants devront adopter une nouvelle charte de la transition et désigner le nouveau président. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby reste à la tête de l'État pour 2 années supplémentaires avec la possibilité de se présenter aux prochaines élections. Il a été officiellement investi hier comme président de la nouvelle phase de la transition à l'issue d'un dialogue national. Et en France, premier procès pour crime contre l'humanité dans la guerre civile au Libéria. Près de 30 ans après les faits, Kunti Camara, un chef de guerre, est jugé pour travail forcé, assassinat et cannibalisme. Madame, monsieur, voici pour les titres de ce 6h. Merci de nous suivre. Merci donc de suivre les infos sur Radio Oméga. Bonjour, bon réveil et bienvenue. On ouvre ce journal avec cette révélation du journal Africa Intelligence. Le capitaine Ibrahim Traoré discute avec le général Djibril Bassolé. Les deux hommes se sont parlé au téléphone le 2 octobre dernier à la suite de la prise du pouvoir par le jeune capitaine. L'entretien qui a duré près d'une heure est en fait le premier contact entre les deux hommes, entre le capitaine et le général de gendarmerie. Selon Africa Intelligence, ils ne se connaissaient pas avant cette date. Le journal indique également que l'ancien président Paul-Henri Damiba a également échangé à plusieurs reprises avec l'ancien ministre des Affaires étrangères au cours de ces derniers mois. Djibril Bassolé, qui vit hors du Burkina depuis janvier 2020, où il a obtenu une liberté provisoire de 3 mois pour se soigner en France après avoir écopé de 30 ans de prison ferme dans le dossier du putsch manqué du 16 septembre 2015. La dernière apparition publique de Djibril Bassolé remonte à août dernier, au Tchad, où il a été aperçu à l'ouverture du dialogue national inclusif au compte d'une délégation du Qatar. Selon Africa Intelligence, il réside actuellement à Dakar, au Sénégal. Africa Intelligence révèle également que le capitaine Ibrahim Traoré a discuté plusieurs fois avec le président en exercice de la CEDEAO, Oumarou Sissoko Embalo, président bissau-guinéen, ainsi que plusieurs émissaires ivoiriens dont l'identité n'a pas été précisée. Des discussions, on l'imagine bien, autour de cette nouvelle transition qui s'ouvre. Et vous le savez, des assises nationales sont prévues ces 14 et 15 octobre pour adopter la charte de la transition et en désigner le nouveau président. Eh bien, un comité d'organisation a été mis en place pour piloter l'organisation de ces assises. Il est composé d'une trentaine de membres et présidé par le colonel-major Célestin Saint-Pauré. Les invitations sont déjà lancées. Les concertations devraient connaître la présence des forces vives des différentes régions, des volontaires pour la défense de la patrie, des différentes forces de défense et de sécurité. Également attendus à ces assises nationales, les partis politiques de tous bords, la société civile, les communautés coutumières et religieuses, les syndicats, les Burkinabés de l'extérieur et évidemment le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration en charge actuellement de la gestion du pouvoir d'État. Sont également attendus donc des représentants des différentes organisations politiques et de la société civile. Oméga, dans la suite de ce journal, retour sur une journée peu célébrée au Burkina, la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, et une initiative en particulier celle d'une association qui, depuis 2 ans, vient en aide aux filles et femmes atteintes de maladies mentales, Sœurs pour Sœurs, Tonla Taba, c'est le nom de cette association dont Julienne Zongo est la présidente. Elle explique la raison d'être de son association au micro de Lamine Traoré.
C'est une initiative que nous avons voulu pour pallier à un manque. Oui, parce que nos sœurs, je vais dire les femmes et les filles souffrant de maladies mentales, ne sont pas prises en compte constatons que avec la pléthore des associations de droits humains et des associations de défense des droits des femmes qui existent, personne ne fait cas de ces femmes-là. Alors que hier encore, c'était des femmes et des jeunes filles actives comme nous tous qui participaient à la vie de la communauté évacuée à leur occupation. Aujourd'hui, souffrant de maladies mentales, elles ont été oubliées par tout le monde. Alors nous avons voulu qu'on ne les mette pas au banc de la société, parce que c'est une situation qui est transitoire, pour peu que certaines mesures pour les accompagner, pour les soutenir, soient prises.
Et quel message avez-vous à l'endroit de toutes ces filles, toutes ces femmes en cette journée mondiale de la santé mentale?
Je voudrais avoir une pensée pour toutes ces femmes-là qui traversent la maladie mentale et leur dire que nous sommes ensemble. Et que elle passe par une situation transitoire qui, avec l'aide de tous, avec le soutien aussi de tout le monde, qu'elles vont pouvoir s'en sortir. Dire aux familles que c'est pas une fatalité, c'est pas ça. On ne doit pas avoir honte d'avoir dans sa famille, d'avoir une sœur qui souffre de maladie mentale. C'est une maladie comme toute autre, avec ses difficultés, mais c'est ensemble. Interpeller aussi les décideurs. Pour que tout ce qui est prévu pour les femmes, pour les jeunes filles en général, que tous les projets et programmes en faveur des femmes et des jeunes filles soient inclusifs de ces femmes-là.
À l'occasion justement de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée donc hier, l'actrice sénégalo-burkinabé Maïmouna Ndiaye a organisé une activité de sensibilisation contre la stigmatisation des personnes vivant avec une maladie mentale. La célébration a été ponctuée d'une projection de film, d'un panel, d'une exposition photo et d'un repas communautaire. Solomon Nikiema et Yaya Diomandé nous en parlent.
Le 10 octobre, Journée mondiale de la santé mentale est commémorée au Burkina autour du thème « La santé mentale au Faso, tous impliqués ». C'est dans ce cadre que l'association Maïmoundi sensibilise sur les aspects de ce mal, couramment considéré comme un sujet tabou au Burkina. L'actrice cinéma sénégalo-burkinabé Maïmouna Ndiaye est la coordinatrice de l'association Maïmoundi et promotrice de cette activité.
J'ai vu que ici, souvent, la maladie mentale est quelque chose de très tabou. On n'en parle pas, on cache ses malades mentaux ou son enfant qui est un peu handicapé. Je veux faire de la sensibilisation et je veux me servir de mon art et des outils que j'ai, cinématographiques et théâtraux, avec donc des amis artistes et des associations partenaires. On a décidé donc tous les 10 octobre, qui est la journée internationale de la santé mentale, de célébrer cette journée en incluant tout le monde, pour avoir vraiment une éducation inclusive avec les familles, avec les enfants, avec le cinéma, avec l'art, et que c'est ensemble, tous impliqués pour la santé mentale, qu'on va y arriver.
Tout le monde compte et peut apporter sa pierre dans le processus de développement du pays, soutient la marraine de cette activité, Annick Pitbougoum.
Premièrement, ces personnes n'ont pas choisi d'être ce qu'elles sont. Et deuxièmement, je pense que tout le monde compte dans ce pays-là. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, peut participer à la construction de notre pays qu'est le Burkina Faso.
Selon la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, plus de 116 millions de personnes vivent avec des troubles mentaux sur le continent. La Journée mondiale de la santé mentale représente alors un palier pour mieux faire connaître les questions autour du sujet et améliorer l'aide aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale.
Et puis, dans un tout autre domaine, cette initiative de l'ATSL, l'Association des techniciens son et lumière, et l'entreprise de former ses membres dans leurs activités respectives en vue d'améliorer la pratique de leur métier. La session a été clôturée samedi dernier après 2 semaines de théorie et de pratique. Moumouni Yaro y a assisté.
L'atelier a ouvert ses portes le 26 septembre. Il visait à professionnaliser ces techniciens qui travaillent dans l'ombre pour le son et la lumière. En ce 8 octobre 2022, jour de sa clôture, le président de l'ATSL, Association des techniciens son et lumière, confie que les participants ont beaucoup appris. Mohamed Kabouri.
On a passé 2 semaines pour accompagner ces jeunes-là à pouvoir être plus professionnels, parce que la majorité, c'est dans le tas, parce qu'on n'a pas une école vraiment qualifiée pour ça. On a commencé par l'électricité parce que ce qui dit la technique son et lumière, il faut d'abord de l'électricité pour que les appareils puissent fonctionner. La soudure des câbles, la maintenance côté matériel son et lumière. Et cette semaine, on a travaillé maintenant en deux groupes. C'était 30 jeunes, 15 en son et 15 en lumière.
Les deux semaines de formation qui ont allié théorie et pratique ont permis de combler quelques lacunes de ces jeunes hommes et femmes dans la production du son de qualité et de la lumière. Richard Zongo, participant.
Cette formation nous a permis de renforcer nos capacités en théorie et en pratique. Des connaissances de base même que nous ne savions pas. On a appris à faire comment avoir un courant triphasé, un courant monophasé, qu'on appelle courant continu et courant alternatif. On a appris aussi à manipuler la console, détecter techniquement la console. On a appris aussi à câbler les retours, les façades, les inserts, les effets, les compresseurs. La formation était à la hauteur de nos attentes.
Les bénéficiaires de cette formation sont venus de Ouaguia, Fada, Koudougou, Dédougou et Bobo Djoulasso.
Et cette information de dernière minute avant d'aller à l'international, l'ancien chef de l'État Yacouba Isaac Zida se montre favorable à une coopération renforcée avec la Russie. Il l'a exprimé ce matin même sur sa page Facebook. Il faut désormais gagner du temps et aller vite à la reconquête du territoire, a-t-il écrit sur sa page Facebook après avoir constaté, selon lui, que le peuple burkinabé a clairement fait son choix depuis les événements du 30 septembre dernier. Ce choix s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont les termes donc qu'il a utilisés pour réussir cette reconquête. Il y a également un choix à faire, celui de nouveaux partenariats stratégiques. Il dit, je cite, « La Russie comme partenaire apportera au Burkina Faso les équipements militaires nécessaires pour faire face à cette insurrection djihadiste. Comme c'est le cas au Mali voisin, l'armée burkinabé sera équipée d'avions de reconnaissance, de vrais hélicoptères de combat, d'armement de dernière génération et bien d'autres moyens indispensables pour vaincre les terroristes. Depuis le début de cette guerre, dit-il, il y a 6 années, tous nos soldats ne sont pas encore dotés d'une arme individuelle. On ne parle même pas des volontaires mobilisés qui vont quelquefois à la reconquête, à la rencontre de l'ennemi, armés de leur seul courage et de leurs amulettes. Comment expliquer une telle situation quand on sait que des centaines de milliards ont été annuellement injectés dans le budget de la défense? Tout laisse penser qu'il existe un vaste projet d'anéantissement progressif de ce pays que nous avons hérité de nos ancêtres. Le peuple burkinabé tout entier est debout et doit rester, et doit le rester jusqu'à la libération totale du pays, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Omega, l'international. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, 38 ans, reste à la tête de l'État pour 2 années de plus. Il a été investi hier, lundi, président de la nouvelle période de transition, conformément aux conclusions du dialogue national inclusif et souverain. Il obtient également la possibilité d'être candidat aux prochaines élections, alors qu'il avait fait la promesse de ne pas se présenter à l'élection d'après transition. Les précisions de Yaya Diomandé.
Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, organe dirigeant du Tchad depuis le décès de l'ancien chef d'État Idriss Déby Itno, a été investi ce lundi 10 octobre, président de la transition pour une période de 2 ans. La cérémonie officielle s'est tenue devant plusieurs chefs d'État, notamment Mohamedou Bouhari du Nigeria voisin. Le Tchadien Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, lui, a décliné l'invitation sur fond des principes de l'organisation africaine sur les changements de régime anticonstitutionnel. Pourtant, dans son discours d'investiture, Mahamat Idriss Déby a soutenu que le Tchad reste attaché aux principes et valeurs édictés par les textes internationaux, continentaux et régionaux auxquels il a adhéré. La communauté internationale se doit d'accompagner le Tchad dans sa quête permanente de sécurité et de stabilité, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur de ses frontières, notamment sur les théâtres des opérations de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme, a prononcé le président Idriss Déby, qui évoque par ailleurs une jalousie de certains acteurs internationaux sur la souveraineté du Tchad exprimée à travers le dialogue national inclusif et souverain. Cette investiture est l'aboutissement du processus de dialogue national inclusif et souverain qui a recommandé, entre autres, la prolongation de 24 mois de la durée de la transition militaire et la possibilité pour le général Mahamat Idriss Déby de se porter candidat aux prochaines élections. Des conclusions contestées
contestée par une cinquantaine de structures politiques et associatives qui fustigent une mise en scène.
En Guinée, l'ancien président Moussa Dadis Camara reste en prison. Le tribunal chargé de le juger ainsi qu'une dizaine d'autres accusés pour le massacre du 28 septembre 2009 a décidé hier de le maintenir en détention le temps de son procès et de rejeter donc son placement à résidence surveillée. Le tribunal a rejeté toutes les autres demandes formulées par les avocats de la défense dès l'ouverture de ce procès le 28 septembre dernier. Il a décidé que les débats sur le fond de l'affaire et les interrogatoires des accusés pouvaient commencer. Le parquet avait fait incarcérer à la veille du procès les accusés encore libres, dont le capitaine Camara, qui vivait jusqu'alors en exil au Burkina et était rentré quelques jours plus tôt. Le président du tribunal, Ibrahima Souri Tunkara, a annoncé qu'en vertu du code de procédure pénale, les accusés étaient tenus de se constituer prisonniers la veille de leur procès et que la mesure de résidence surveillée n'était applicable qu'aux détenus étrangers. Et en France, premier procès pour crime contre l'humanité commis pendant la guerre civile au Libéria dans les années 1990. L'audience s'est ouverte hier avec à la barre Kunti Camara, ancien commandant du groupe rebelle libérien de l'ULIMO, mouvement de libération unie pour la démocratie au Libéria. L'homme de 47 ans est poursuivi pour travail forcé, assassinat accompagné de cannibalisme. Il lui est reproché d'avoir perpétré lui-même ou supervisé des actes inhumains dans le nord-ouest du pays entre 1993 et 1994. Selon les témoignages recueillis au cours de la procédure, il faisait notamment subir à ses victimes un supplice dénommé Tabé qui consiste, attention aux âmes sensibles, qui consiste à attacher leurs coudes et poignets dans le dos, parfois jusqu'à la mort, avant de découper leur cœur et de le manger. Kunti Camara aurait également délibérément toléré les viols collectifs de deux jeunes femmes, dont l'une s'est constituée partie civile dans ce procès.
Omega Sport.
Et la page sport, c'est Bernabé Cabré qui nous la propose. Il est question notamment des matchs en retard du championnat national.
Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Les matchs en retard de la troisième journée du championnat national se disputent ce soir et demain. Ils avaient été annulés en raison du coup d'État du 30 septembre. Ce soir à 16h, au stade Issoufou Joseph Konombo, le Real du Faso reçoit Royal FC. Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors de la précédente journée. Si Royal FC a écrasé l'AS Onabel 4-0, le Real du Faso a été battu de 1 par Vitesse FC. À 18h15, toujours au stade Issoufou Joseph Konombo, l'AS Onabel sera aux prises avec l'AS Police. Demain mercredi, on aura RCB FO, Asfa ASFB et Salitas FC AS Douane. Le match entre le RCK et Raïmo FC a une fois de plus été reporté. Le RCK sera à Cotonou pour affronter l'AS Vita Club de la RDC pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. La quatrième journée de la Ligue des champions européenne débute ce soir avec 8 oppositions. Après sa large victoire 5-0 à domicile, Manchester City rend cette fois visite au FC Copenhague. Dortmund jouera pour sa part contre le FC Séville. Le Real Madrid se déplace pour affronter le Shakhtar Donetsk de Frank Lassina Traoré, qui l'a battu 2-1 au match aller. Le Celtic Glasgow reçoit Leipzig. Après leur match nul, 1-0 au Portugal, le PSG et le Benfica se donnent rendez-vous à Paris pour le deuxième acte, alors que la Juventus de Turin ira en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. On n'oublie pas le choc Milan AC Chelsea et le match entre le Dynamo de Zagreb et les Red Bull de Salzbourg. Le magazine Forbes, spécialisé dans la finance sportive, a publié le week-end dernier le top 10 des footballeurs les mieux payés du monde en 2022. Ce classement prend en compte les revenus sportifs et extrasportifs. Kylian Mbappé vient en tête avec 131 millions d'euros par an, environ 85 milliards de francs CFA. Avec 123 millions d'euros, 80 milliards de francs CFA, Lionel Messi arrive deuxième. Ronaldo est troisième avec 103 millions d'euros, près de 66 milliards de francs CFA. Neymar est quatrième et l'Égyptien Mohamed Salah cinquième avec 54 millions d'euros par an, 35 milliards de francs CFA. Il est le seul Africain présent dans le top 10 de ce classement du magazine Forbes.
Et le journal se referme ici, mais l'info continue sur Omega, Radio Omega, Omega TV et sur toutes nos plateformes du groupe Omega Media. Le journal a été mis en onde par Fidel Compaoré. Je suis Abdoul Fattah Tiamtouré. Plaisir de vous avoir présenté ce journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Omega. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
Radio Omega, l'info en direct.